Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à deux figures qui nous ont quittés. Michael K. Williams, le héros de la série The Wire, et évidemment Jean-Paul Belmondo, avec notamment un hommage en musique. Et puis il y aura aussi une recension de l'émotion des médias hier soir et ce matin, et c'est bien normal, avec Louise Bernard et également le regard de Bruno Donnet autour de la disparition de Jean-Paul Belmondo. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et évidemment vous pourrez podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia, saviez-vous que le maire de Raqqa en Syrie était une mère et qu'elle a tout juste 30 ans ? Un documentaire qui sort au cinéma l'a suivi pendant 9 jours dans sa ville détruite par la guerre et Daesh. Son réalisateur sera avec nous. Et puis nos invités, la journaliste Ruth Elkrief qui a quitté BFM TV pour revenir sur LCI. Elle présente une quotidienne du lundi au jeudi et également le deuxième débat de la primaire écologie. Ce sera demain. On va lui demander comment elle a prévu cet exercice. Enfin, le comédien surdoué césarisé Pierre Ninet pour Boîte Noire, film de Yann Gosselin avec Lou Delage et André Dussolier. Film qui sort demain. Il y aura son portrait par Lisa-Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Comment ne pas vous en parler, hein, l'artiste en une de presque toute la presse ce matin et qui occupe les télévisions et radios depuis l'annonce de sa mort hier, Jean-Paul Belmondo. On fera un point sur toutes les déprogrammations, les changements de programme des chaînes. Et puis une information Culture Média, un nouvel espace aussi de discussion lancé par Ouest France, vous verrez.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télévision.
Alors ils ont regardé L'amour est dans le pré, qui est donc M6, qui est donc leader, 3 740 000 téléspectateurs, 19% de part d'audience. C'est un petit peu en baisse par rapport à la semaine dernière, mais devant leader, donc devant France 2, mais devant TF1 aussi, mais d'abord France 2, avec le film L'As des As, avec Jean-Paul Belmondo, 3 550 000 téléspectateurs.
J'ai failli faire tomber votre téléphone.
Oui, non, ça ne va pas du tout ce matin. Ça me perturbe, c'est la mort de Belmondo sans doute.
Évidemment.
3 550 000 téléspectateurs, 16,5% de part d'audience. Et puis troisième, donc TF1 avec le film Itinéraire d'un enfant gâté, pareil, hommage à Jean-Paul Belmondo, 3 090 000 téléspectateurs, 15,7% de part d'audience.
Culture Média.
Et donc on reste dans notre sujet avec la une de notre journal des médias, de votre journal des médias, Louise, comme tous les journaux télé, radio ou papier, la mort de Jean-Paul Belmondo.
Mais combien d'artistes existent-ils dont la mort est capable de changer les programmations des chaînes dès le soir même ? C'est vraiment très très rare. Sur TF1, hier soir, il y avait Itinéraire d'un enfant gâté.
Et en 6 mois, tu vas devenir le roi du business en France. T'es prêt ?
Ouais.
Et alors tu vas changer de costard, hein, parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout.
Je savais pas, tu vois.
Puis tu vas apprendre à dire bonjour.
Pardon ?
Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin.
Pour lui dire au revoir, en revanche, France 2 diffusait L'As des As. Arte, c'était une soirée spéciale avec deux films et leur format court blow-up spécial Belmondo. C8, le film Le Magnifique.
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Oh.
Ah oui, bonjour. La routine, mon général, la routine. Vous dites dévoré par un requin ? Ah. Et dans une cabine téléphonique.
Et puis W9, flic ou voyou. Au total, je viens de faire mes petits calculs avec ma calculatrice, et plus de 9 millions de Français qui ont regardé un film avec Jean-Paul Belmondo hier soir. Et Claude Lelouch, invité du journal de France 2 juste avant la diffusion de L'As des As, disait ceci à Anne-Sophie Lapix.
Je suis ravi que tous ces films repassent, voilà. On a besoin de lui, on a besoin de lui. Notre époque a besoin d'un homme comme ça.
Et il a raison, Claude. Hein. Les chaînes vont continuer d'ailleurs les hommages ce soir, continuer de diffuser ces films. Sur France 2, justement, vous entendrez ceci. Petit blind test, Philippe.
Je ne sais plus, ça me rappelle tellement un sketch des nuls et une publicité.
Ah non,
que le professionnel.
Ah non, si vous pensez aux nuls,
bah oui, bien
je
sûr.
Vois très bien aussi avec le chien qui
court.
Enfin bref,
exactement.
On s'égare. Okay. Ce sera donc à 21h05 le professionnel et puis il y aura un Vivement Dimanche, une rediffusion de l'émission qui avait été faite pour ses 80 ans. Sur Canal+, en plus de tous les films mis à disposition sur MyCanal, la chaîne proposera une émission spéciale en clair du Cercle avec Claude Lelouch en invité et puis un documentaire. Pour l'anecdote, le premier film de cinéma diffusé en 84 sur Canal+, c'était un film avec Belmondo, L'As des As. C8 fait plus fort encore. Un programme sur Belmondo tous les soirs de la semaine, sauf jeudi, film ou
pas
documentaire.
Mal.
Soirée spéciale aussi sur Paris Première ce soir à 20h55. Deux films, Le Marginal, L'Héritier et deux documentaires.
Et la presse écrite, évidemment, rend également hommage à Jean-Paul Belmondo.
Ah oui, si vous allez chez votre marchand de journaux ce matin ou devant un kiosque, tous les quotidiens ou presque affichent aujourd'hui Bébel en une, Libération, Le Parisien, La Croix, L'Humanité, Le Figaro. Même le quotidien sportif, L'Équipe, propose un cahier spécial de 8 pages. Jean-Paul Belmondo, qui était un fan absolu de sport. Le journal republie une interview de l'acteur, des réactions du monde du sport aussi. Et puis les titres de ses films se cachent un peu partout dans le journal. Par exemple, À bout de souffle devient le titre d'un article sur l'équipe de France de football.
Bien vu. Europe 1 également rend hommage à Jean-Paul Belmondo.
Oui, Jean-Paul Belmondo raconté par Christophe Ondelatte. Peut-on rêver plus joli hommage ? Le podcast va bientôt être mis en ligne.
Tout autre chose, une information culture média, le journal Le Parisien s'associe à la société de production Studio Fact.
Oui, ensemble, ils vont produire des documentaires, des enquêtes, des reportages ou bien même des fictions, toujours à partir d'histoires réelles. Ça pourra être, par exemple, des enquêtes sociétales, des faits divers ou bien des portraits, des productions audiovisuelles, donc à destination de diffuseurs classiques comme les chaînes de télé ou les plateformes, hein, Netflix, Amazon ou autres. Écoutez, Jacques Aragonès, le patron de Studio Fact.
L'idée, c'est de vraiment de travailler ensemble avec les journalistes du Parisien et ceux de Studio Fact en amont sur des enquêtes de fond et de se faire de conférences de rédaction à communes assez régulièrement et de donner aussi l'occasion aux journalistes du Parisien qui le souhaitent de travailler sur des formats audiovisuels avec nos équipes à partir de leurs enquêtes, de leurs récits, des grands formats. On a déjà eu d'ailleurs l'occasion sur des enquêtes de travailler avec des journalistes du Parisien encore récemment sur l'ultra-droite avec Jean-Michel Decugis, etc. Et ça fonctionne très bien.
Alors, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir le même jour une grande enquête dans Le Parisien ou Le Parisien Magazine, et puis en télé ou sur une plateforme, un reportage ou un documentaire sur le même sujet. En fait, c'est une association très intéressante parce que chacun est gagnant. Il faut bien comprendre que le travail d'un journaliste de presse écrite n'est pas le même en fait qu'un journaliste télé. Chacun a des compétences que l'autre n'a pas. Le Parisien va donc bénéficier du savoir-faire de Studio Fact dans la production audiovisuelle et pouvoir mettre à l'antenne, mettre en image ses enquêtes écrites et donc bénéficier de la puissance de la diffusion qu'apporte la télé et des plateformes. Quant à Studio Fact, c'est la puissance du réseau du Parisien qui est mise à sa disposition. Écoutez Nicolas Charbonneau qui est directeur délégué des rédactions du Parisien et d'Aujourd'hui en France.
On est 400 sur le terrain, on a un maillage particulièrement serré de l'Île-de-France et de la France, un rapport au lecteur sur la proximité, et puis l'expertise aussi. Hein. On sort des infos tous les matins, on est prescripteur tous les matins, et puis on a peut-être aussi cet aspect qui est de sentir et ressentir avec un regard un peu différent. Et il y a eu une évidence entre Studio Fact et nous de se dire on va travailler ensemble main dans la main.
Voilà, alors pour Culture Média, ils ont accepté de nous dévoiler quelques projets sur lesquels ils travaillent. L'affaire Delphine Jubillar, vous savez, c'est cette femme qui a disparu depuis 9 mois et dont le mari est soupçonné du meurtre. Le Parisien sort très régulièrement d'ailleurs des informations sur l'enquête. Un documentaire aussi sur les enfants de policiers, un autre sur la place de la République à Paris, lieu de rencontres et de protestations. Des productions audiovisuelles donc pour le moment, mais à terme, ils ne s'interdisent pas de travailler sur d'autres supports hein, comme des podcasts ou même des livres, car Studio Fact possède une branche édition.
Ouest France, le grand quotidien régional, lance un nouvel outil d'interactivité avec les lecteurs.
Ouest France et vous, un espace conversationnel pour permettre aux lecteurs de dialoguer avec les journalistes de la rédaction, les interroger hein, sur leur manière de travailler ou pour approfondir certains sujets, permettre aussi d'assister à des débats ou des rencontres avec des invités de la rédaction et puis permettre de donner leur avis sur des témoignages, sur des problèmes, leur avis ou leur témoignage, pardon, sur des problématiques locales ou nationales, raconter leur quotidien en fait aux journalistes de Ouest France. C'est une idée qui a germé pendant la pandémie parce que les lecteurs avaient beaucoup d'interrogations et la rédaction s'est mobilisée à ce moment-là pour leur répondre. Ils ont voulu continuer dans ce sens et ce nouveau service va permettre de confronter le journalisme à la réalité des habitants. Sébastien Gromette est le rédacteur en chef délégué en charge du lancement de Ouest France et vous.
La présidentielle est un moment clé pour réinterroger la vie dans les territoires. Elle sera très importante pour tous les candidats. Et nous, nous voulons être au plus près des préoccupations des électeurs et faire remonter justement ce qui se passe dans les territoires ruraux, dans les périphéries, dans les quartiers. Et ça, c'est la vraie vie des gens qu'il est important de révéler et de mettre sur la place publique. On retrouve là l'ADN de Ouest France, qui est bien la proximité, le service aux lecteurs. On a beaucoup de matière qu'on va chercher, qu'on peut retravailler derrière. Et ça nous permet, je pense, de faire un journalisme qui soit plus en phase avec l'évolution des territoires.
Et pour fêter le lancement de la plateforme, des portes ouvertes virtuelles sur le site de Ouest France aujourd'hui, avec des directs toute la journée pour découvrir ces coulisses de la rédaction. Ouest France et vous, qui sera donc accessible via le site internet de Ouest France ou l'application.
Et puis un mot sur la mort d'un autre acteur survenu hier, Michael K. Williams.
Oui, il avait incarné l'un des personnages emblématiques de la série The Wire, Omar Little, criminel très charismatique dont on reconnaît le petit sifflement dans la série quand il se balade dans les rues de Baltimore, personnage préféré de Barack Obama. Il est décédé hier à 54 ans dans un appartement new-yorkais. Plusieurs médias évoquent une thèse d'overdose en citant des sources policières.
Et hommage ce matin dans Culture Média avec Clément Le Saff qui nous fera un indispensable spécial Omar. Et l'information vient de tomber. L'Élysée annonce qu'il y aura un hommage à Jean-Paul Belmondo jeudi aux Invalides. Merci Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, on va vous emmener à la rencontre de Leïla Mustapha. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, à l'âge d'à peine 30 ans, elle est maire de Raqqa en Syrie, l'ancienne capitale de l'État islamique. Le réalisateur Xavier Dolezal lui consacre un documentaire qui sort demain au cinéma. Il sera avec nous dans ce studio dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Alors que demain s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, coup d'œil vers la ville de Raqqa en Syrie, ancienne capitale des terroristes de Daesh. Libérée il y a près de 4 ans, la ville tente de se relever alors que 80% du territoire a été détruit. Jamais un même lieu n'avait été autant bombardé depuis la guerre du Vietnam. Le départ des troupes américaines à la demande de Donald Trump en 2019 a renforcé l'insécurité et aussi la présence de cellules dormantes de l'État islamique. Et pourtant, Raqqa a un avenir démocratique devant elle, guidée par une jeune femme de 30 ans. Elle s'appelle Leïla Mustapha, une kurde syrienne devenue la maire de Raqqa en 2017. Pendant 9 jours, elle a été suivie par l'écrivaine Marine de Tilly pour rédiger un livre sur son incroyable histoire. Et cette aventure a donné un documentaire, 9 jours à Raqqa, qui sort au cinéma dès demain. Pour en parler, nous recevons son réalisateur, Xavier Dolezal. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes auteur, producteur, réalisateur. Vous avez suivi Marine de Tilly et son photographe pendant 9 jours. Quand avez-vous tourné ?
J'ai tourné en février-mars 2019, exactement.
Le film est sous-titré. C'est important parce qu'ici, dans cette émission, on passe souvent des extraits, mais là, tout, rien n'est en français. Donc, on va seulement vous faire écouter la bande-annonce que nous avons traduite.
C'était le 20 octobre 2017. Nous étions tous debout, en train de pleurer. Comment Raqqa pouvait-elle être aussi détruite ? Il y a ces deux sentiments, le désespoir d'un côté et une force motrice de l'autre. Mais ce qui importe, c'est d'être libéré du cauchemar de Daesh. Et on sait que c'est possible.
Le documentaire met en avant cette jeune femme de 30 ans, donc Leïla Mustapha, maire de Raqqa, ancienne capitale de l'État islamique. Comment se fait-il que ce soit une femme et de surcroît une jeune femme qui soit devenue maire, Xavier Dolezal ?
Oui, c'est quelque chose qui est complètement inattendu dans le paysage actuel du Moyen-Orient. Donc c'est ce qui fait la force de son histoire. Pourquoi c'est une jeune femme ? Parce qu'en fait, elle a un parcours qui est assez exceptionnel. Leïla Mustapha, c'est une fille de Raqqa, qui est née à Raqqa, qui est kurde, qui fait partie de la minorité kurde de Raqqa, Raqqa étant une ville majoritairement arabe. Mm-hmm. Elle a fait toutes ses études à Raqqa. Elle est diplômée, elle est ingénieure en ingénierie civile. Et pendant la guerre, l'arrivée de Daesh, en fait, Daesh a demandé aux Kurdes de quitter la ville. Elle est partie et elle s'est investie auprès des populations de réfugiés et de déplacés au nord de la Syrie. Et ensuite, elle a rencontré son mentor qui s'appelle Omar Alouche, qui était un avocat, un homme d'affaires kurde, mais qui militait beaucoup pour le rapprochement arabo-kurde, qu'il a pris sous son escarcelle, sous son aile, et il l'a poussé au devant de la scène lorsque le conseil civil de Raqqa, l'équivalent d'une mairie, a été créé juste avant la libération, pour anticiper en fait la libération, pour être prêt au moment où il fallait tout de suite commencer à reconstruire. Et en fait, elle a été nommée par une assemblée donc, de notables et de chefs de tribu pour reconstruire sa ville. Pourquoi ? Parce qu'en en fait, elle est diplômée en ingénierie civile et qu'elle est capable techniquement de reconstruire sa ville.
Et cette nomination était aussi évidemment un geste politique.
C'était un geste...
Non, mais volontairement une femme et une femme jeune, oui. C'est pas innocent, c'est pas gratuit.
Oui, alors c'est surtout qu'en fait, elle était nommée avec un homme aussi, un arabe, puisque c'est le projet kurde. En fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Dans le projet kurde au nord de l'Irak, il est basé aussi sur beaucoup de choses, sur la démocratie, sur le pluralisme, mais aussi sur la parité homme-femme. Donc, à la tête de chaque administration, vous avez obligatoirement un homme et une femme. Donc, elle a été nommée en binôme avec un homme arabe. Et elle, c'est une femme kurde. Et elle était nommée aussi parce qu'elle avait l'esprit pour essayer de reconstruire sa ville, pour les murs, en ce qui concerne les murs, mais aussi les esprits. Quoi.
Quelle vie a-t-elle concrètement ? Elle est mariée, elle a des enfants, elle vit dans un bâtiment officiel. Comment c'est concrètement ? Parce que c'est à ça aussi que s'attache votre documentaire.
Oui, alors elle est sous surveillance en permanence. Hein. Elle a un service de sécurité permanent. Oui, elle a une protection, pardon. Elle a une protection permanente parce qu'évidemment, Leïla, c'est une cible hein, en tant que femme. Et du coup, elle se donne en fait complètement à sa mission. Et elle a des parents, des frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs. Elle n'est pas mariée et elle est complètement investie dans sa mission. Elle est dans une abnégation totale.
Quelles étaient les conditions de tournage ? Je sais que vous êtes d'abord parti en Turquie, puis vous avez rejoint la Syrie par la route. Vous étiez combien ? C'était quoi les conditions et l'équipe qui était avec vous ?
Alors, pas par la Turquie, hein, on est passé par l'Irak.
Ah, pardon, en fait, excusez-moi. Oui.
Voilà, alors nous étions. En fait, c'est un projet qui s'est fait très rapidement, c'est-à-dire que j'ai entendu parler de ce livre, je ne connaissais pas Marine de Tilly, l'écrivaine, et j'ai entendu parler de son projet de livre, et du coup, je l'ai contacté pour me greffer à son projet. Tout s'est fait très, très vite. Mm-hmm. On avait la possibilité de passer, donc on est parti. Rapidement, nous étions quatre, il y avait elle, moi, Caroline Florentin qui prenait le son, et puis Jean-Mathieu Gauthier qui est le photographe et qui a pris des photos. Voilà, nous étions quatre, nous sommes arrivés à Erbil, et ensuite on a été à la frontière de Fishkabour entre l'Irak et la Syrie, et ensuite on a été pris par les services de sécurité kurdes, les ACIH, qui nous ont amenés jusqu'à Raqqa. Voilà.
La sécurité, vous l'avez dit, est un des grands enjeux autour de Leïla Mustapha, qui ne reste jamais très longtemps dehors. Est-ce que vous-même, vous avez ressenti le danger ?
Le danger, en fait, je vais vous dire, c'est toujours difficile de le ressentir. Tant qu'il ne vous pète pas la figure, c'est difficile de savoir exactement.
Je vais poser la question
différemment.
Est-ce que vous avez eu peur pendant le tournage ?
On a eu... En fait, on se posait des questions. On a eu un peu peur. Quand on était dans la voiture de Leïla, on savait qu'on était... justement avec une cible en fait. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de passer 9 jours avec quelqu'un dont on sait qu'elle est ciblée. Après, on se reposait complètement sur les services de sécurité qui nous accompagnaient. Quand ils nous disaient qu'on pouvait sortir, aller dans la ville, on y allait. Quand ils nous disaient qu'il fallait rentrer dans la voiture, on rentrait dans la voiture. Mmh. Et on se savait quand
D'accord,
même bien accompagné.
Même dans la voiture, vous vous cachiez ?
Oui, il y avait des rideaux. Et du coup, on nous demandait régulièrement de fermer les rideaux pour pas trop se faire voir. Et alors, si vous me posez la question, pourquoi 9 jours ? Bah parce qu'en fait, justement, c'était 9 jours pour que Marine puisse avoir suffisamment de temps pour récolter les informations, pour écrire son livre. Et en même temps, c'était pas trop. Enfin, il fallait pas rester plus parce qu'on commençait à être identifié. Il fallait partir au bout de 9 jours.
On a parlé de Leïla Mustapha, on n'a pas encore parlé de la ville de Raqqa. Ce sera dans la deuxième partie de cet entretien. Nous sommes avec Xavier de Lausanne. 9 jours à Raqqa, ça sort demain au cinéma. Et c'est dans quelques instants sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Xavier de Lausanne, réalisateur qui signe 9 jours à Raqqa, documentaire autour de Leïla Mustapha, la jeune mère de Raqqa, ex-capitale de l'État islamique en Syrie. Elle a seulement 30 ans. Il y a des moments très étonnants dans cette ville de Raqqa, vous le filmez. La ville n'a plus de réseau électrique, elle n'a plus de courante. Les bâtiments s'effondrent tous, elle est détruite à 80%, je crois, je cite de mémoire. Et pourtant, la priorité a été de reconstruire des ronds-points. Pour quelle raison ?
Pour une raison pratique, déjà, parce qu'il fallait tout de suite pouvoir circuler dans cette ville, hein, puisqu'il était impossible de circuler juste après la guerre. Il y avait des gravats absolument partout, donc il a fallu dégager, déminer pour circuler. Et aussi pour une raison symbolique, c'est-à-dire qu'il a fallu redonner de l'espoir aux gens. Et il y avait une place, notamment, qui était connue pour la barbarie, puisque c'est une place où étaient suppliciés beaucoup de gens par les islamistes. Et le Conseil civil a voulu faire de cette place un symbole. Et aujourd'hui, avant, elle s'appelait la place des suppliciés. Maintenant, elle s'appelle la place de la liberté. Et donc, cette place a été complètement refaite. Et c'est un lieu de rendez-vous tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs pour les habitants de Raqqa.
Supplicier, Raqqa, oui. Supplicier, c'est un bien joli mot pour dire qu'il y avait parfois des têtes coupées qui étaient pendues tout autour et qui restaient comme ça. Dans ce film, 9 jours à Raqqa, il y a parfois des images très dures de combats entre la coalition internationale et les forces démocratiques syriennes et l'État islamique. État islamique, pardon, pourquoi ce choix? Vous ne vouliez pas occulter cette dimension?
Oui, alors je voulais en fait replacer Raqqa dans le contexte historique dont on a entendu parler. On a beaucoup entendu parler de Raqqa, mais on ne maîtrise pas forcément l'histoire. Et je trouvais ça bien de recontextualiser en fait la ville. Et puis en plus, oui, ne pas occulter ce qui s'est passé, hein, l'horreur, la barbarie, sans évidemment en montrer trop, puisque l'objectif du film est de donner de l'espoir. Donc à partir de cette constatation, on va vers une note d'espoir grâce à Leïla qui nous emmène vers un futur possible.
3000 à 4000 morts à Raqqa sont non identifiés. Ce n'est pas le simple décompte des morts, mais il y en a 3000 à 4000 non identifiés, des étrangers. D'après Leïla Mustapha, il s'agit de civils ou de combattants. D'où venaient ces gens et pourquoi étaient-ils là?
Vous savez que les attentats de Paris ont été commandités depuis Raqqa. Mmh. Et vous savez qu'un certain nombre d'islamistes français étaient à Raqqa. Et pas que français, aussi des Belges, des Européens, des Russes, des Tchétchènes. Donc en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que les habitants de Raqqa ont subi en fait l'horreur qui venait de l'extérieur. C'est pas eux qui l'ont voulu, c'est pas eux qui l'ont accueilli les bras grands ouverts. Donc ce sont des jeux d'influence, malheureusement, et eux ont été au point central de ça.
Les habitants de Raqqa ont vécu, donc c'était de 2014 à 2018, sous l'autorité de la charia et de l'État islamique. Les femmes étaient lapidées pour adultère, les homosexuels tués, les voleurs avaient la main coupée, ceux qui ne priaient pas à la bonne heure voyaient leur magasin scellé pendant un mois, la musique était interdite, ils ont repris facilement goût à la vie où il y a des traumatismes inexpugnables.
Évidemment, il y a des traumatismes très profonds, évidemment, il y a des souffrances extrêmement profondes, mais vous savez, les gens de Raqqa sont partis et après ont voulu revenir parce qu'ils n'avaient pas d'autre habitation que celle qu'ils avaient dans Raqqa, donc beaucoup sont revenus habiter dans les ruines. Et pour essayer de se refaire une vie. Après, il ne faut pas sous-estimer aussi les capacités de résilience en fait, de ces populations. On a trop tendance à les enfermer sous une chape de plomb dont ils ne peuvent pas s'en sortir.
C'est pour ça que je vous posais la question, en fait, vous qui avez été sur place et qui les avez rencontrés et croisés.
Oui, exactement. C'est pour ça que je me suis focalisé plutôt sur les notes d'espoir, parce qu'à l'intérieur de ces ruines, on voit des gens qui essayent de vivre et qui espèrent un avenir meilleur, en fait. Et ils ont besoin de quelqu'un pour les guider. Et donc Leïla Mustapha est un guide au même titre que le conseil civil, que toute son équipe municipale. Et je trouve ça important de se focaliser sur ces gens justement qui se battent en fait aujourd'hui. On parle beaucoup des islamistes, hein, et on va en parler beaucoup à cause du procès justement des attentats de Paris qui va démarrer demain. Et donc moi je voudrais aussi qu'on parle de gens qui se battent pour défendre des valeurs qui sont aussi les nôtres.
Une remarque est faite dans le documentaire sur l'absence des médias. Tous ou presque semblent être partis à la fin de la bataille de Raqqa en 2017. Comment ça se fait ?
On se focalise beaucoup sur la guerre. La guerre, il ne faut pas se leurrer, la guerre est un spectacle. Donc ça suscite beaucoup de curiosité, de convoitise. Mais une fois que la guerre est terminée, en fait, tout le monde s'en va et les médias s'en vont et vont aller couvrir une autre guerre. Et je pense que c'est important de considérer que les médias ont aussi un devoir d'équilibre et qu'il faudrait qu'ils s'intéressent un peu plus aux possibilités de paix et à la reconstruction.
En même temps, vous l'avez dit vous-même, c'est très 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 difficile d'aller tourner là-bas. C'est peut-être pas évident pour tous les médias d'aller envoyer des journalistes sur place.
Vous savez, des journalistes qui partent couvrir la guerre, ils peuvent aussi partir couvrir la paix.
Vous avez des nouvelles de Laila Mustapha, cette jeune femme donc, qui est maire de Raqqa. Est-ce qu'elle parvient à mener à bien sa mission?
Oui, on est en contact tous les jours par WhatsApp, surtout pour la sortie de film. Elle n'a malheureusement pas pu venir en France, mais elle suit de très près la sortie du film. Là, elle vient de m'envoyer un très beau texte hier soir à lire justement pendant les projections. Mmh. Et elle suit ça de près. Donc elle va bien et elle continue de reconstruire. Elle est toujours dans sa mission et elle est toujours positive et elle va toujours de l'avant.
Je vais citer Marine de Tilly, l'écrivaine que vous avez suivie, qui est à l'origine un peu de ce projet pour un livre qui était paru en librairie en 2020, La femme, la vie, la liberté. Elle cite, Marine de Tilly, cette citation de Laila Mustapha. Donc c'est Laila Mustapha qui parle. Elle dit « Les gens de Raqqa m'ont choisi pour que je leur rende une vie, la parole, une démocratie, pas pour que j'ajoute mes larmes au torrent des leurs. » C'est une très jolie phrase. Je vous remercie Xavier de Lausanne. Je rappelle que vous êtes auteur, producteur et le réalisateur de ce film documentaire « 9 jours à Raqqa » au cinéma demain, mercredi, et que je vous recommande.
Et la musique faite par Ibrahim Malouf, qui a fait une très belle musique sur le film.
Exactement, il fallait que ce soit dit. Dans un instant, nous serons en compagnie d'une journaliste et encore Ruth Elkrief. Comment se prépare-t-elle au débat du premier tour de la primaire écolo qu'elle animera demain soir? Et puis, elle arrive, elle débarque sur LCI avec une nouvelle émission, Ruth Elkrief 2022, qui veut aussi dire, c'est son horaire, et aussi 2022. Elle sera avec nous dans ce studio en moins de deux. A tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Ruth Elkrief.
Bonjour Philippe, bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, immense carrière, je ne vais pas tout citer, elle a démarré sur LCI, vous étiez sur TF1, BFM TV, que vous avez quitté en courte saison passée pour revenir sur LCI. Votre actualité en cette rentrée est double. Votre émission à vous, Ruth Elkrief 2022 ou alors 2022, c'est l'horaire du lundi au jeudi de 20h à 22h, on va en reparler. Puis, actualité immédiate également, le deuxième débat de la primaire écolo, ce sera demain à 20h45, toujours sur LCI. Il va mettre en scène Delphine Bateau, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Éric Piolle, Sandrine Rousseau. On va entendre la bande-annonce du débat.
C'est le premier événement de la campagne présidentielle, la primaire des écologistes. Comment mettre l'écologie au cœur de la vie des Français? Qui a vraiment la carrure? Ils sont cinq candidats qui viendront exposer leur programme et débattre pour vous convaincre. Rendez-vous mercredi en direct à 20h45 sur LCI, la chaîne de la politique.
LCI, la chaîne de la politique, c'est le nouveau positionnement de la chaîne?
Oh, pas seulement, je l'ai peut-être un petit peu improvisé parce que c'est...
Ah, vous avez improvisé la bande-annonce. J'avais encore jamais vu ça.
Mais
normalement,
non, mais...
c'est marketé, c'est
mais
relu
bien sûr,
par des rédacteurs.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait le choix à LCI d'être très fort sur la campagne présidentielle. Oui. Et le titre de mon émission 2022 le montre. Et LCI est très fort sur la politique. Et donc, c'était une façon de dire qu'on se positionne, qu'on est la chaîne de l'événement politique, des événements politiques à venir. Du débat des idées, du débat de la politique en général, mais aussi des rapports de force, des stratégies.
J'ai compris, mais ce que je veux dire par là, oui. C'est pas la nouvelle baseline de LCI comme M6 était la petite chaîne qui monte.
Non, mais c'est sûr que cette année, regardez,
évidemment.
Avec ce qui se passe, ça veut dire qu'on est dans l'actualité politique au sens large, oui.
Alors, il y aura trois débats entre les cinq candidats écolos, le deuxième chez vous demain, le premier c'était dimanche, l'heure du déjeuner, midi ou 13h sur France Info, le troisième sera sur Mediapart. Question boutique, comment tout cela s'est organisé? Est-ce que ce sont les Verts qui l'ont voulu? Est-ce que toutes les chaînes se sont rencontrées? Est-ce que d'autres chaînes étaient en lice? BFM TV, CNews, comment s'est faite la répartition?
Vous voulez que je vous raconte tous les coulisses?
Non, mais au moins celle-ci, au moins celle-ci.
Alors, sachez d'abord que LCI a donc les deux débats, c'est-à-dire demain soir, le deuxième débat des écologistes, mais aussi le débat du deuxième tour, ouais. Du 22 septembre.
Il y aura trois débats du premier tour et un débat du second.
Voilà. Et en fait, on a rencontré les écologistes. Moi, j'avais ça dans la tête avec toutes les équipes de LCI, avec Adrien Jeanne, avec Fabien Amias, bien sûr, pour être présent sur cet événement. Parce que je suis convaincue que c'est le lancement de la campagne présidentielle.
Non, mais moi, je ne doute pas une seconde de l'importance de l'événement.
Voilà.
Ma question était, comment s'est fait le tour de table?
Le tour de table, c'est que chacun fait son projet, donne des idées, montre un peu son conducteur, a des partenaires. On a deux partenaires. On a le partenaire Loopsider, qui est un média digital extrêmement connu et suivi, qui a une communauté très active, le Figaro évidemment. Donc on a l'histoire LCI, les débats politiques, les débats des régionales que David Pujadas a organisés, qui ont été un succès. L'image d'LCI, qui est une image de, de fond, de réflexion, de pédagogie et aussi de réactivité. Vous avez regardé, vous avez vu sur Jean-Paul Belmondo hier soir, on était parmi les premiers, on a eu absolument tout le monde.
Je voulais vous entendre parler de politique, vous avez parlé pendant 2 heures, Jean-Paul Belmondo. Et on va pas vous le reprocher, nous aussi on fait une spéciale et un hommage.
Hier soir,
hier soir,
mais vous savez, c'est Jean-Paul Belmondo, c'est la France, c'est les Français.
Bien
la
sûr.
Politique,
il
c'est
incarne
les...
autre chose que le cinéma et ses propres rôles, bien sûr.
Et la politique, c'est pas seulement ou des grandes phrases ou de la langue de bois. C'est aussi parler de la vie des gens.
Alors, vous allez aborder ce débat avec le sérieux qu'on vous connaît, vous allez le préparer. Et je vous parle de ça parce que dimanche midi, le premier débat de la primaire écolo s'est tenu sur la chaîne France Info, le canal 27. C'était comment dire c'est le chef du service politique de France Info, Cyril Graziani, qui a dit tout le bien qu'il en pensait. C'était dans le débriefing de l'émission. Petit rappel.
Alors, un débat très policé, intéressant sur le fond, évidemment, mais peut-être sur la forme, on s'attendait à un peu plus de joute entre les candidats.
Vous aussi, vous avez été déçu ? Par l'absence de dynamisme.
J'ai suivi ça avec intérêt parce que je me projette dans demain soir. J'ai pas à être déçu ou pas déçu.
J'ai regardé
pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes. C'est vrai que j'ai observé qu'ils faisaient très attention. Donc ce sera à moi. Mais
le mécanisme était placide.
Oui, mais je vais vous dire, un débat de primaire, c'est pas une interview. J'en ai fait plusieurs, les débats de primaire en 2017. Vous vous en souvenez, il y en a eu plusieurs. Un débat de primaire, c'est un débat pédagogique aussi pour expliquer aux Français les différents programmes et c'est eux qui vont choisir. Après,
je suis obligé de vous démentir, je me souviens très bien, c'était en mai 2019, il y avait Yannick Jadot qui était le candidat des Verts qui n'arrivait plus à se taire, vous n'arriviez plus à le faire taire, il n'arrêtait pas de parler.
Ça c'est pendant le débat des européennes.
Vous avez raison.
Le débat des élections européennes. C'est un peu différent, excusez-moi.
Vous avez
raison. Parce que les débats des primaires, on avait, vous savez, l'affiche des Républicains de l'époque, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-François Copé, etc. Nathalie Kosciusko-Morizet, mais aussi à gauche et tout. Mmh. En fait, le débat d'un débat de primaire, c'est aussi, ça parle aux électeurs, aux sympathisants, aux Français, mais c'est un débat assez pédagogique. Il faut qu'ils comprennent quels sont les enjeux et il faut qu'ils puissent distinguer entre les candidats. Et bon, quand on parle d'écologie, c'est assez précis, c'est assez approfondi. Et donc, on n'attend pas obligatoirement qu'ils se battent au dernier sang. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre eux, et j'attends d'eux qu'ils l'expriment pour que le choix se fasse, bien sûr.
Alors Bruno Donnet, qui avait attentivement suivi le débat pour nous, avait noté qu'il n'y avait pas d'opposition entre les candidats, une suite de simples constats sur la situation telle qu'elle est, mais à aucun moment sur ce que les candidats voudraient qu'elle soit. Et le coup de grâce, ce fut cet aveu de Delphine Bateau.
Le choix de la primaire n'est pas une question de personne ou d'individu.
Vous allez leur expliquer le principe de la primaire, qu'on vote pour des personnes ou pour des individus ?
Dans la famille écologiste, évidemment, les idées vont beaucoup primer, mais il faut essayer de mettre en valeur à la fois l'intérêt de leur programme, s'il y en a, et les Français vont juger, leurs électeurs vont juger, et aussi leurs différences. Mais ça, demain, oui, je vais leur demander de les exposer un peu plus, c'est sûr.
On a parlé du débat.
Différence, ça ne veut pas dire agressivité, pardon.
J'ai bien compris.
Vous voyez, c'est
j'ai
ça.
J'ai bien compris.
Différence, ça ne veut pas dire bagarre, ça veut dire juste explication.
Alors, comptez pas sur moi pour ici vanter l'agressivité, le buzz et les petites phrases qui ne servent à rien. Ce n'est pas l'ambiance de la maison. Rutel Krieff, vous restez avec nous. On va parler également de votre 2022. C'est votre quotidienne sur LCI qui a démarré très récemment. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la journaliste Rutel Krieff qui présente le débat des écolos, ce sera demain sur LCI, c'est sa nouvelle chaîne désormais. Et vous avez une émission emblématique, 2022, Rutel Krieff 2022. Ça donne à la fois à votre horaire.
C'est pas un acte de candidature.
Hein. Non, sans doutait. Mais quand même, ça positionne l'émission. On entend le générique qui vous plaît tant. C'est dommage qu'on soit à la radio parce qu'il est absolument magnifique visuellement, ce générique.
Il est superbe. Il est superbe. Johan Saillon, toutes les équipes qui ont travaillé avec lui. Vraiment, on fait un magnifique travail. Guillaume Dubois et Fabien Namias l'ont imaginé. Et moi, je suis très, très, très heureuse de le voir. C'est pixelisé. C'est superbe.
Alors, l'idée de fond, c'est laquelle ? Ça veut dire que 2022, vous allez parler que de politique ? J'imagine que non, mais
non,
quand même, c'est
écoutez,
la
écoutez, hier soir, on a parlé
majeure.
De Jean-Paul Belmondo.
Voilà,
hein, donc, la semaine dernière, il y avait le discours de Joe Biden sur l'Afghanistan. Donc, on est une chaîne d'infos, une chaîne d'actu. On réagit et on s'adapte.
Mais vous êtes parti avec quelle feuille de route ?
La feuille de route, c'est qu'effectivement, c'est un lieu de débat politique avec des invités de première catégorie, entre guillemets. Ce soir, Xavier Bertrand. qui n'a pas parlé depuis quelques jours, notamment depuis que les Républicains sont réunis à chaque week-end, etc. Valérie Pécresse monte dans les sondages, comment il réagit. Enfin voilà, donc ce soir, c'est un moment important. On a un des candidats potentiels, le troisième possible de la campagne présidentielle de la candidature. Donc, c'est un rendez-vous politique, c'est un rendez-vous de débat. Il y a plusieurs parties. Il y a une partie de débat politique avec des éditorialistes, des gens qui ont des infos, qui vont vous donner des confidentiels. Il y a Paul Larouturou, qui est du quotidien.
Je vais en parler.
Voilà, ouais. qui vient nous apporter son regard.
On va faire un point mercato sur Paul Larouturou également.
Voilà. Bon, en tout cas, il vient nous apporter vraiment un regard formidable, espiègle, décalé, et en même temps très fin sur ce qui se passe en politique. Ensuite, on a l'invité, et puis après, on a un débat avec des observateurs, des intellos, des essayistes, pour aussi montrer que la politique, ce sont des idées, ce sont pas seulement des bras de fer, des coups fourrés, mais aussi des idées.
Quand vous faites un teaser, ce qu'on appelle un teaser pour donner envie aux gens de voir l'émission, vous n'y allez pas de main morte ou tel crier, vous n'allez pas avoir de compliments. Jeudi, vous annonciez notre grand débat avec les plus fins observateurs de notre société, rien que ça.
Vous savez ce que c'est, oui, c'est sûr. Si je les ai choisis, c'est aussi parce que je pense qu'ils vont m'apporter quelque chose. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé, alors il y a eu deux fois où on a été obligé avec l'actu de changer, mais à chaque fois j'ai écouté avec délice et avec intérêt. Donc je me dis que les autres écoutent aussi avec intérêt.
Je vais citer le dossier de presse de LCI, deux points ouvrent les guillemets. Routel Krief proposera aux téléspectateurs de suivre cette année politique intense en la traitant comme une série télévisée. C'est-à-dire.
C'est vrai qu'on s'est dit, on a vu tellement de séries télé sur la politique, ouais. Et un feuilleton a commencé, c'est celui de la présidentielle. C'est le 10 avril, on peut faire un décompte des jours, même si aujourd'hui les Français ne sont pas complètement dedans, il faut être très honnête et regarder
les choses
en face. Des
fois une série, ça met du temps à démarrer.
Voilà, parfois ça démarre tout doucement. Ça n'empêche que on sent bien que tout le monde se demande qui va être le candidat de la droite, est-ce que Macron est vraiment le favori, comment Marine Le Pen, qui arrive toujours au deuxième tour, va vraiment conforter son avance ou pas, à gauche, comment ça se passe avec les écolos. Donc il y a quand même un suspense, parce qu'il y a aussi des trublions, il y a aussi des événements qui vont se passer, et on sera là à essayer au maximum d'en rendre compte, de le raconter et puis de l'analyser.
Quand on voyait des séries comme The West Wing, on avait l'impression que les séries tentaient de copier la réalité, mais là c'est une émission politique qui copie les séries. Est-ce qu'on n'atteint pas là une limite? Est-ce qu'on scénarise pas la politique? Est-ce qu'on la spectacularise pas?
Non, alors c'est aussi une façon de dire que c'est un feuilleton et que chaque jour qui passe nous rapproche de la date. Donc c'est la série de l'année 2022, ça, effectivement. Mais je vais vous dire, j'ai pas les moyens, mais personnellement, n'ai pas les moyens des gros producteurs de West Wing ou de House of Cards.
Vous avez toutefois eu le moyen. Vous avez toutefois les moyens de récupérer Paul Larouturou, qui était figure emblématique de la politique dans l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès sur TMC, qui appartient au groupe TF1, je le précise. Comment l'avez-vous récupéré, Paul Larouturou?
En fait, Paul a eu envie de se renouveler, d'aller vers une nouvelle aventure. Il a eu plusieurs possibilités, plusieurs offres. Et je suis très, très contente, très flattée. Et pas seulement moi, mais globalement TF1 LCI, qui nous est choisi pour venir travailler avec nous. Et c'est vraiment un plaisir. C'est un journaliste jusqu'au bout des ongles et qui est en plus qui a un esprit d'équipe, qui a un esprit qui est complètement sur la balle, comme on dit, en permanence, et qui est très stimulant aussi intellectuellement. Donc c'est un plaisir, oui.
C'est comment ça se passe, comment cette rentrée? Dans toutes les interviews, vous dites, j'ai l'impression de repartir à zéro, de prendre des risques.
C'est vrai.
Sincèrement.
Mais sincèrement, il y a des choses que je sais faire. Bon, d'accord, bien sûr, il y a des choses qui me viennent, qui a des automatismes, c'est normal. Après un certain nombre d'années, on ne va pas dire combien, de carrière et de fréquentation de l'actualité. Mais il faut s'adapter. Quand on construit un nouveau produit, ça veut dire une nouvelle émission, vous savez bien ce que c'est, il y a toutes sortes d'inconnus, toutes sortes d'imprévus.
Et une nouvelle chaîne, et une nouvelle équipe, des nouveaux studios, des nouveaux locaux.
Voilà, un plateau sublime. Vous avez vu le plateau?
Oui, j'ai vu.
Magnifique.
Oui.
Tout à fait nouveau et avec cette impression d'espace, de modernité, de transparence.
Mais vous avez vraiment l'impression, comme on dit, de remettre votre titre en jeu, de repartir à zéro?
Oui. Mais oui.
On va finir sur ce oui. Routel Krief avec nous ce soir 20h 22h sur LCI et demain le débat, le deuxième débat de la primaire écolo. C'est vous aussi qui présenterez le débat de deuxième tour de la primaire écolo sur LCI?
Oui.
J'ai oublié la date, mais en tout cas...
Le 22 septembre.
Merci pour cette aide. Merci Routel Krief d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. L'émission qui continue, après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Bruno Donnet pour ses télescopages qui a suivi évidemment l'hommage des chaînes à Jean-Paul Belmondo. Notre invité, c'est le comédien surdoué Pierre Ninet. On va parler de son film Boîte Noire, film très très réaliste. Polar mental, comme dit le magazine Première. Et puis dans les indispensables, encore deux hommages. Stéphanie Loire, qui va rendre hommage musical à Belmondo, et Clément Le Saffre à l'acteur Michael K. Williams. Et puis Marc-Antoine Lebray, humoriste imitateur, va clôturer l'émission. À tout de suite.